Hector Malo, Annie. Paris, première partie. Au balcon d'une maison du boulevard Bonne Nouvelle, en hautes et larges lettres dorées, on lit « Office cosmopolitain des inventeurs » et, sur deux écussons en cuivre appliqués contre la porte qui, au premier étage de cette maison, donne entrée dans les bureaux, cette enseigne se trouve répétée avec l'énumération des affaires que traite l'office. Obtention et vente de brevets d'invention en France et à l'étranger, attaque et défense des brevets en tout pays, recherche d'antériorité, dessins industriels, Le Cosmopolitain, journal hebdomadaire illustré. Monsieur Chaberton, directeur. Qu'on tourne le bouton de cette porte, ainsi qu'une inscription invite à le faire, et l'on est dans une vaste pièce, partagée par cages grillées, que divise un couloir central conduisant au cabinet du directeur. Un tapis en caoutchouc, BSGDG, va d'un bout à l'autre de ce couloir, et par son amincissement, il dit, sans qu'il soit besoin d'autres indications, que nombreux sont ceux qui, happés par les engrenages du brevet d'invention, engagés dans ces laminoirs, passent et repassent par ce chemin de douleur, sans pouvoir s'en échapper, et reviennent là chaque jour, jusqu'à ce qu'ils soient hachés, broyés, réduits en pâte, et qu'on ait exprimé d'eux, au moyen de traitements perfectionnés, tout ce qui a une valeur quelconque, argent ou idée. Tant qu'il lui reste un souffle, la victime crie, se débat, lutte, et au guichet des cages derrière lesquelles les employés se tiennent impassibles, ce sont des explications, des supplications ou des reproches qui n'en finissent pas. Puis l'épuisement arrive, mais celle qui disparaît est remplacée par une autre qui subit les mêmes épreuves, avec les mêmes plaintes, les mêmes souffrances, la même fin, et celle-là par d'autres encore. En général, les clients du matin n'appartiennent pas à la même catégorie que ceux du milieu de la journée ou du soir. À la première heure, souvent, avant que Barnabé, le garçon du bureau, ait ouvert la porte et fait le ménage, arrivent les fiévreux, les inquiets, ceux que l'engrenage a déjà saisis et ne lâchera plus. De la période des grandes espérances, ils sont entrés dans celle des difficultés et des procès. Ils apportent des renseignements décisifs pour leur affaire, qui dure depuis des mois, des années, et va faire un grand pas ce jour-là. Ou bien, c'est une nouvelle provision pour laquelle ils sont en retard, et qu'ils ont pu enfin se procurer le matin même par un dernier sacrifice. Et, en attendant l'arrivée des employés ou du directeur, ils comptent leurs douleurs et leurs angoisses à Barnabé, qui les enveloppe de flots de poussière soulevés par son balai. Puis, après cela, c'est l'heure de ceux qui, pour la première fois, tournent le bouton de l'office. Vaguement, ils savent que les brevets ou les marques de fabrique doivent protéger leur invention ou assurer ainsi la propriété de ces produits. Et ils viennent pour qu'on éclaire leur ignorance. Que faut-il faire? Ils ont toutes les confiances, toutes les audaces, portées qu'ils sont sur les ailes de la fortune ou de la gloire. Ne sont-ils pas sûrs de révolutionner le monde avec leur invention qui va les enrichir en même temps qu'elle enrichira tous ceux qui toucheront? Et les millions roulent, montent, s'entassent, éblouissants, vertigineux. « S'il faut prendre un brevet en Angleterre ?» dit M. Chaberton répondant à leurs questions. « Non seulement en Angleterre, mais aussi en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Europe, en Asie, en Amérique, partout où la législation protectrice des brevets a pénétré. Sans doute, la dépense peut paraître gênante, alors surtout quand on s'est épuisé dans de coûteux essais, mais ce n'est pas quand on touche au succès qu'on va le laisser échapper. » Et, sortant de son cabinet, M. Chaberton amène lui-même dans ses bureaux ce nouveau client pour le confier à celui des employés qui guidera ses pas dans la voie de la prise et de l'exploitation d'un brevet. « Voyez M. Barinck, voyez M. Spring, voyez M. Jugu. » Et le client admis dans la cage de celui à qui on le confie s'intéresse, ravi, à voir M. Barinck, le dessinateur de l'office, traduire sur le papier les idées plus ou moins vagues qu'il lui explique, ou M. Spring préparer devant lui les pièces si importantes des patentes anglaises, car dans l'office cosmopolitain, on opère sous l'œil du client. C'est même là une des spécialités de la maison, grâce à M. Spring, qui écrit avec une égale facilité le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, ayant roulé par tous les pays avant de venir échouer boulevard Bonne Nouvelle. Et aussi grâce à M. Barinck, qui sait en quelques coups de crayon bâtir un rapide croquis. Après une journée bien remplie, qui n'avait guère permis aux employés de respirer, les bureaux commençaient à se vider. Il était 6h25, et les clients qui tenaient à voir M. Chaberton lui-même savaient par expérience que, quand la demie sonnerait, il sortirait de son cabinet sans qu'aucune considération pût le retenir une minute de plus, ayant à prendre au passage l'omnibus du chemin de fer pour s'en aller à Champigny où, hiver comme été, il habite une vaste propriété dans laquelle s'engloutit le plus gros de ses bénéfices. Bien que la besogne du jour fût partout achevée, et que Barnabé fût déjà revenu de la poste où il avait été porter le courrier, les employés, derrière leur grillage, paraissaient tous appliqués au travail. Le patron allait passer en jetant de chaque côté des regards circulaires, et il ne fallait pas qu'il pût s'imaginer qu'on ne ferait rien après son départ. Quand le coup de la demie frappa, il ouvrit la porte de son cabinet et apparut coiffé d'un chapeau rond, portant sur le bras un pardessus dont la boutonnière était décorée d'une rosette multicolore, sa canne à la main. Un client misérablement vêtu le suivait et le suppliait. « Barnabé, guettez l'omnibus, » dit M. Chaberton. « C'est ce que je fais, monsieur. » En effet, posté dans l'embrasure d'une fenêtre, le garçon de bureau ne quittait pas des yeux la chaussée qu'il découvrait au loin, jusqu'à la descente du boulevard Montmartre, son regard passant librement à travers les branches des marronniers et des paulownias qui commençaient à peine à bourgeonner. Cependant, le client, sans lâcher M. Chaberton, manœuvrait de façon à lui barrer le passage. « Tâchez donc, disait-il, de m'obtenir 5 000 francs de M. Streifler. Il gagne plus de 500 000 francs par an avec mes brevets. Ils peuvent bien faire cela pour celui qui les leur a vendus. » Ils répondent qu'ils ont fait plus qu'ils ne devaient. Ce n'est pas à vous qu'ils peuvent dire cela. Vous qui avez vu comme ils m'ont saigné à blanc, qu'ils m'abandonnent ces 5 000 francs et je renonce à toute autre réclamation. C'est plus d'1 million que je sacrifie. Monsieur Barinck, interrompit le directeur, où en est votre bois pour le journal?
J'avance, monsieur.
Il faut qu'il soit fini ce soir. Je ne partirai pas sans qu'il soit terminé. Je compte sur vous.
Avec ces 5 000 francs, continuait le client, j'achève mon appareil calorimétrique, qui sera certainement la plus importante de mes inventions. Son influence sur les progrès de notre artillerie peut être considérable. Ce n'est pas seulement un intérêt égoïste qui est en jeu, le mien, que vous m'avez toujours vu prêt à sacrifier. C'est aussi un intérêt patriotique.
Vous vous ferez sauter, mon pauvre monsieur Ruffin, avec vos expériences sur les pressions des explosifs en vase clos. C'est bien de cela que j'ai souci.
L'omnibus, cria le garçon de bureau.
M. Chaberton se dirigea vivement vers la porte, accompagné de son client, et le silence s'établit dans les bureaux, comme si les employés attendaient un retour possible
quelque invraisemblable qu'il fût.
« Emballez le patron !»
cria Barnabé, resté à la fenêtre. Mais tout à coup, il poussa un cri de surprise.
« Qu'est-ce qu'il y a ?»
Le vieux Ruffin monte avec lui pour le raser jusqu'à la gare. Alors, instantanément, au silence succéda un brouhaha de voix et un tapage de pas que dominait le chant du coq, poussé à plein gosier par l'employé chargé de la correspondance.
« Taisez-vous donc, monsieur Bellemanière, » dit le caissier en venant sur le seuil de la pièce qu'il occupait seul. « On ne s'entend pas. Tant mieux pour vous. »
« Parce que ?» demanda le caissier qui était un personnage grave, mais simple et bon enfant.
« Parce que, mon cher monsieur Morisette, si vous dites des bêtises, comme cela vous arrive quelquefois, on ne se fichera pas de vous. »
Morisette resta un moment interloqué, se demandant évidemment s'il convenait de se fâcher et cherchant une réplique.
« Ah ! Que vous êtes vraiment le bien nommé » dit-il enfin après un temps assez long de réflexion.
C'était précisément parce qu'il s'appelait Bellemanière que l'employé de la correspondance affectait l'insolence avec ses camarades, cherchant en toute occasion et sans motif à les blesser, afin qu'ils n'eussent pas la pensée de faire allusion à son nom, dont le ridicule ne lui laissait pas une minute de sécurité. Un autre que lui fut peut-être arrivé à ce résultat avec de la douceur et de l'adresse, mais étant naturellement grincheux, malveillant et brutal, il n'avait trouvé comme moyen de se protéger que la grossièreté. La réplique du caissier l'exaspéra d'autant plus qu'elle fut saluée par un éclat de rire général auquel Spring, seul, ne prit pas part. Mais l'amitié ou la bienveillance n'était pour rien dans cette abstention. Et si Spring ne riait pas comme ses camarades de la réponse de Morisette, et surtout de la mine furieuse de Bellemanière, c'est qu'il était absorbé dans une besogne dont rien ne pouvait le distraire. À peine le patron avait-il été emballé dans l'omnibus, comme disait Barnabé, que Spring, ouvrant vivement un tiroir de son bureau, en avait tiré tout un attirail de cuisine. Une lampe à alcool, un petit plat en fer battu, une fiole d'huile, du sel, du poivre, une côtelette de porc frais enveloppée dans du papier et un morceau de pain. La lampe allumée, il avait posé dessus son plat après avoir versé dedans un peu d'huile et maintenant il attendait qu'elle fût chaude pour y tremper sa côtelette. Que lui importait ce qui se disait et se faisait autour de lui? Il était tout à son dîner. Ce fut sur lui que Bellemanière voulut passer sa colère.
« Ha ! Encore les malpropretés anglaises qui commencent !» dit-il en venant appuyer son front contre le grillage de Spring.
« Ce n'étaient pas des malpropretés ?» dit celui-ci froidement avec son accent anglais.
« Pour le nez à veau !» répondit Bellemanière en imitant un instant cet accent. « Mais pour le nez à moi. Et je dis qu'il est insupportable que le mardi et le vendredi, vous nous infectiez de votre sale cuisine.
« Vous savez bien que le mardi et le vendredi, je ne peux pas rentrer dîner chez moi puisque je travaille dans ce quartier. »«
Vous ne pouvez pas dîner comme tout le monde au restaurant ?»«
Non !» L'énergie de cette réplique contrastait avec l'apparente insignifiance de la question de Bellemanière. Et elle expliquait tout un côté des habitudes mystérieuses de Spring, obsédé par une manie qui lui faisait croire que la police russe voulait l'empoisonner. Pourquoi la police russe poursuivait-elle un sujet anglais? Personne n'en savait rien. Rares étaient ceux à qui il avait fait des confidences à ce sujet, et jamais elle n'avait été jusqu'à expliquer les causes de la persécution dont il était victime. Mais enfin, cette persécution, évidente pour lui, l'obligeait à toutes sortes de précautions. C'était pour lui échapper qu'il avait successivement fui tous les pays qu'il avait habités. Odessa, Gênes, Malaga, San Francisco, Rotterdam, Melbourne, Le Caire. Et que maintenant, à Paris, il déménageait tous les mois pour dépister les mouchards, passant de Montrouge à Charonne, des Ternes à la Maison-Blanche.
et c'était aussi parce qu'il se sentait enveloppé par cette surveillance qu'il ne mangeait que les aliments qu'il avait lui-même préparés, convaincu que, s'il entrait dans un restaurant, un agent acharné à sa poursuite trouverait moyen de jeter dans son assiette ou dans son verre une goutte de ces poisons terribles dont les gouvernements ont le secret.
Savez-vous seulement pourquoi vous ne pouvez pas dîner au restaurant ? Demanda Belle-Manière pour exaspérer Spring.
Je sais ce que je sais.
Alors, vous savez que vous êtes toqué ?
Laissez-moi tranquille, je ne vous parle pas.
Une voix sortit de la cage située près de la porte, celle de Barinck.
Monsieur Spring a raison. Chacun ses idées.
Quand elles sont cocasses, on peut bien en rire, sans doute.
Riez-en tout bas. Ne perdez donc pas votre temps à faire le Don Quichotte gascon. Vous n'aurez pas fini votre bois et vous arriverez en retard à votre soirée.
Abandonnant la cage de Spring, Belle-Manière vint se camper au milieu du passage.
Dites donc, messieurs, vous savez que c'est aujourd'hui que M. Barinck donne à danser dans les salons de la rue de l'Abreuvoir ?
Une soirée dansante rue de l'Abreuvoir à Montmartre, dans les salons de M. Barinck, autrefois inventeur de son métier, présentement dessinateur de l'Office Chaberton. En voilà encore une idée cocasse.
Monsieur et Madame Barinck de Saint-Christau prient, monsieur, de leur faire l'honneur de venir passer la soirée chez eux le mardi 4 avril à 9h. On dansera.
Non, vous savez, ce que c'est drôle, c'est à se rouler.
Roulez-vous,
dit le caissier. Nous serons tous bien aises de voir ça. Ne vous gênez pas.
Barnabé, balayez donc une place pour que Monsieur Belle-Manière puisse se rouler.
Pourquoi ne nous avez-vous pas invités ?
Demanda Belle-Manière sans répondre directement.
On ne pouvait pas vous inviter, vous,
répondit l'employé au contentieux qui jusque-là n'avait rien dit, occupé qu'il était à cirer ses souliers.
Parce que, Monsieur Jugu ?
Parce que, pour aller dans le monde, il faut certaines manières.
Un rire courut dans toutes les cages.
Exaspéré, Belle-Manière se demanda manifestement s'il devait assommer Jugu. Seulement, la réplique qu'il fallait pour cela ne lui vint pas à l'esprit. Après un moment d'attente, il se dirigea vers la porte avec l'intention de sortir, mais, rageur comme il l'était, il ne pouvait pas abandonner ainsi la partie. On l'accuserait de lâcheté. On se moquerait de lui lorsqu'il ne serait plus là. Il revint donc sur ses pas.
Certainement, j'aurais été déplacé dans les salons de M. et Mme Barinck de Saint-Christau,
dit-il en prenant un ton railleur. Mais il n'en eût pas été de même de M. Jugu.
Et assurément, quand Barnabé, qui va ce soir faire fonction d'introducteur des ambassadeurs, aurait annoncé de sa belle voix enrouée M. Jugu, il y aurait eu sensation dans les salons, comme il convient pour l'entrée d'un gentleman aussi pourri de chic, aussi pchut, sans compter que ce haut personnage pouvait faire un mari pour Mademoiselle de Saint-Christau.
« Monsieur, dit Barinck d'une voix de commandement, je vous défends de mêler ma fille à vos sornettes.
Vous n'avez rien à me défendre, ni à m'ordonner, et le ton que vous prenez n'est pas ici à sa place. Peut-être était-il admissible quand vous étiez Monsieur de Saint-Christau, mais maintenant que vous avez perdu votre noblesse avec votre fortune, pour devenir simplement le père Barinck, employé de l'office Chaberton, ni plus ni moins que moi, il est ridicule avec un camarade qui est votre égal.
Quant à votre fille, j'ai le droit de parler d'elle, de la juger, de la critiquer, même de me ficher d'elle.
Monsieur !
Oui, mon bonhomme, de me ficher d'elle, de la blaguer, puisqu'elle est une artiste. Quand, par suite de malheurs,
ils sont connus ici, vos malheurs,
on laisse sa fille fréquenter l'atelier Julien et exposer au salon des petites machines pas méchantes du tout, pour lesquelles on mendie une récompense de tous les côtés. On n'a pas de ces fiertés-là.
Taisez-vous, je vous dis de vous taire.
L'accent aurait dû avertir Belle-Manière qu'il serait sage de ne pas continuer. Mais, avec le rôle de provocateur qu'il prenait à chaque instant, obéir à cette injonction eût été reculé et abdiqué. D'ailleurs, une querelle ne lui faisait pas peur, au contraire.
« Non, je ne me tairai pas, dit-il. Non et non.
Vous nous ennuyez !» cria Morisette. « Raison de plus pour que je continue.
Il est 6h52, vous en avez encore pour 8 minutes, puisqu'il n'y en a pas un seul de vous assez résolu pour déguerpir avant que 7 heures n'aient sonné. »
« C'est Annie, n'est-ce pas, qu'elle se nomme votre fille, monsieur Barinck ?»
Barinck ne répondit pas.
« En voilà un drôle de nom.
Vous vous êtes donc imaginé, quand vous le lui avez donné, que c'est commode un nom qui commence par Annie ?»«
Annie quoi ?»«
Anisette ?» Alors, ce serait un qualificatif de son caractère. « Ou bien Annie Croche,
qui serait celui de son mariage ?»
Il y a encore autre chose qui commence par Annie,
interrompit un employé qui n'avait encore rien dit.
Quoi donc? Il y a Animal, qui est votre nom, à vous.
Ah, monsieur l'advenu, vous êtes un grossier personnage.
Vraiment? Il y a aussi Animosité, dit Morisette, qui est le qualificatif de votre nature.
Ne pouvez-vous pas laisser vos camarades tranquilles sans les provoquer ainsi à tout bout de champ?
C'est insupportable d'avoir à subir tous les soirs vos insolences, que vous trouvez peut-être spirituelles, mais qui, pour nous, je vous le dis au nom de tous, sont stupides.
Précisément parce que tout le monde était contre lui, Belle Manière voulut faire tête.
Il y a aussi Animation, continua-t-il en poursuivant son idée, avec l'obstination de ceux qui ne veulent jamais reconnaître qu'ils sont dans une mauvaise voie. Et c'est pour cela que je regrette de n'avoir pas été invité rue de l'Abreuvoir. J'aurais été curieux de voir une jeune personne qui se coiffe d'un béret bleu quand elle va à son atelier, ce qui indique tout de suite du goût et de la simplicité, manœuvrer ce soir pour pêcher un mari. Brusquement, la porte de Barinck s'ouvrait, et avant que Belle Manière, revenue de sa surprise, eût pu se mettre sur la défensive, il reçut en pleine figure un furieux coup de poing qui le jeta dans la cage de Jugu.
« Je vous avais dit de vous taire !» s'écria Barinck.
Tous les employés sortirent précipitamment dans le passage et, avant que Belle Manière ne se fût relevée, se placèrent entre Barinck et lui.
Mais cette intervention ne paraissait pas bien utile. Belle Manière, n'ayant évidemment pas plus envie de rendre la correction qu'il avait reçue, que Barinck de continuer celle qu'il avait commencée.
C'est une lâcheté, hurlait Belle Manière, entre collègues, et sans prévenir.
Et du bras, mais à distance, il menaçait ce collègue en se dressant et en renversant sa tête en arrière. Évidemment, il eût pu être redoutable pour son adversaire, et, trapu comme il l'était, carré des épaules, solidement assis sur de fortes jambes, âgé d'une 30aine d'années seulement, il eût eu le dessus dans une lutte avec un homme de tournure plus leste que vigoureuse. Mais cette lutte, il ne voulait certainement pas l'engager, se contentant de répéter
« C'est une lâcheté, un collègue !»«
Vous n'avez que ce que vous méritez, » dit Morisette. « Monsieur Barinck vous avait prévenu. »
Spring seul n'avait pas bougé. Quand il eut avalé le morceau qu'il était en train de manger, il sortit à son tour de son bureau, vint à Barinck et, lui prenant la main, il la secoua fortement.
« All right, » dit-il. Aussitôt, les autres employés suivirent cet exemple et vinrent serrer la main de Barinck.
« N'étaient vos cheveux gris, » disait Belle Manière de plus en plus exaspérée, « je vous assommerai. »
Ne dites donc pas de ces choses-là, » répondit Morisette. « On sait bien que vous n'avez envie d'assommer personne. »«
Insulter, oui, » dit l'advenu. « Assommer, non. »« Vous êtes des lâches, » vociféra Belle Manière, « de vous mettre tous contre moi. »«
Dis maintenant contre un gentilhomme, » dit Jugu en riant.
« Allons, gentilhomme, rapière au vent, » cria l'advenu.
Belle Manière roulait des yeux furibonds, allant de l'un à l'autre, cherchant une injure qui fût une vengeance. À la fin, n'en trouvant pas d'assez forte, il ouvrit la porte avec fracas.
« Nous nous reverrons !»
s'écria-t-il en les menaçant du poing.
« Espérons-le, oh mon Dieu ! Quel chagrin ce serait de perdre un collègue aimable comme vous !
Tous nos respects !
Prenez garde à l'escalier !»
Ces mots tombèrent sur lui, dru comme grêle,
avant qu'il eût fermé la porte.
« Messieurs, je vous demande pardon, » dit Barinque, quand Bellemanière fut parti.
« C'est nous qui vous félicitons. »
« En entendant parler ainsi de ma fille, je n'ai pas été maître de moi. M'attaquant dans ma tendresse paternelle, il devait savoir qu'il me blessait cruellement. »
« Il le savait. Soyez-en sûr, » dit Jugu.
« Seulement, je suppose, » dit Spring la bouche pleine, « qu'il n'avait pas cru que vous y arriviez jusqu'au coup de poing. »
« Et voilà pourquoi nous ne pouvons que vous approuver de l'avoir donné, » dit Morisette, à qui ses fonctions et son âge conféraient une sorte d'autorité. « Espérons que la leçon lui profitera. »
« Si vous comptez là-dessus, vous êtes naïf, » dit l'advenu. « Le personnage appartient à cette catégorie dont on rencontre des types dans tous les bureaux et qui n'ont d'autre plaisir que d'embêter leurs camarades.
Celui-là nous a embêtés et nous embêtera tant que nous n'aurons pas, à tour de rôle, usé avec lui du procédé de M. Barinque.
« Moi, je n'approuve pas le coup de poing, » dit Jugu.
« Elle est bien bonne. »
« Je parle en me mettant à la place de M. Barinque.
J'aurais cru que c'était en vous mettant à celle de Bellemanière.
Expliquez-vous, philosophe.
Ça agite la main et cela ne va pas aider M. Barinque pour finir son bois. »
Le premier coup de 7 heures, qui sonna au cartel, interrompit ses propos. Avant que le dernier eût frappé, tous les employés, même Spring, étaient sortis. Et il ne restait plus dans les bureaux que Barinque, qui s'était remis au travail pendant que Barnabé allumait un bec de gaz et achevait son ménage à la hâte, pressé, lui aussi, de partir. Il fut bientôt prêt.
« Vous n'avez plus besoin de moi, monsieur Barinque ?»«
Non, allez-vous-en et dînez vite. Si vous arrivez à la maison avant moi, vous expliquerez à madame Barinque ce qui m'a retenu et lui direz qu'en tout cas, je rentrerai avant 8h30.
N'allez pas vous mettre en retard, au moins.
Oh, il n'y a pas de danger que je fasse ce chagrin à ma fille. »